C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
On tente de se maintenir en vie. Là. C'est juste l'entre-deux. La trace.
Regard intime.
Bonjour à tous pour ce cinquième numéro de Regard intime. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Jean Lacornerie qui monte à la Croix-Rousse l'opéra de Katsu. Je rappelle que Jean Lacornerie est le directeur du théâtre de la Croix-Rousse. Ainsi, nous le rencontrons pour qu'il nous parle de son spectacle. En fond de ce que je suis en train de dire, vous entendez la version mythique du thème principal de l'opéra, du moins un des thèmes principaux, la fameuse chanson de Mackie, chantée par Armstrong. Vous aurez l'occasion, lors de cet entretien, d'entendre quelques morceaux de la pièce de l'opéra de Katsu, mise en scène par Jean Lacornerie avec Jean Roberlet à la direction musicale. Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que Jean Lacornerie a un répertoire assez singulier dans le paysage théâtral français. Il a monté beaucoup de comédies musicales, des opéras et quelques pièces de théâtre, surtout au début de sa carrière dans les années 90. Il est également très ancré dans le territoire rhône-alpin. Il a montré de nombreuses comédies musicales, dont certaines de Kurt Weill, entre autres. En 2000, il a monté Happy End et Mahagoni Songspiele de Bertolt Brecht et Kurt Weill à l'espace Malraux de Chambéry. En 2006, il a monté cette fois Signé Vénus, One Touch of Venus, également sur une musique de Kurt Weill, au théâtre de la Renaissance, et en 2008, Lady in the Dark de Kurt Weill également, avec Ira Gershwin et Moss au théâtre de la Renaissance. Ainsi, je vous laisse écouter cet entretien intéressant où, dans un premier temps, le metteur en scène va évoquer son rapport et à quel point l'opéra de Katsu constitue une pièce importante qu'il a décidé de monter maintenant, à ce moment précis de son parcours théâtral. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous retrouve pour le prochain numéro de Regard intime la semaine prochaine, qui sera avec Pablo Larraín et Roberto Farias pour Acesso. Merci à tous et bonne écoute pour ce cinquième numéro de Regard intime. Je vous laisse avec la voix d'Armstrong pour vous laisser enfin avec Jean Lacornerie.
Pour l'opéra de Katsu, mais effectivement, est-ce que l'opéra de Katsu a une résonance particulière aujourd'hui? Oui, mais il y en a toujours, en fait. Je crois que c'est une pièce qui est... c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est toujours jouée depuis sa création, sans arrêt. C'est que justement, elle peut résonner avec ce qu'on peut vivre, et selon les époques que nous traversons, elle résonnera autrement. Mais ça, c'est le cas à peu près de tous les chefs-d'œuvre. Tous les grandes œuvres. Alors, après, il y a aussi des questions de production qui viennent interférer là-dedans. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de trouver des partenaires sur ce projet important. Voilà, ça a aussi donné du problème quand on fait du théâtre. Et puis, peut-être aussi, mais je ne voudrais pas trop d'ailleurs dire que oui, aujourd'hui, plus qu'hier, l'opéra Katsu est actuel. Non, je crois que la brutalité qui est décrite dans l'opéra Katsu est malheureusement à peu près universelle.
Et oui, justement, vous avez insisté sur l'idée que Kurt Weill est quelqu'un d'important dans l'histoire de la musique. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez plutôt mis en avant dans votre mise en scène ? Vous avez plutôt mis en avant la musique de Kurt Weill ou le texte de Bertolt Brecht ?
Bah, déjà, dans la musique de Kurt Weill, il y a le texte de Bertolt Brecht, puisque c'est Brecht qui écrit les chansons. Donc, on ne peut pas faire cette séparation. Et ce qui est intéressant dans le Paracasso, c'est le mélange. C'est le mélange de la musique et du théâtre. C'est là que le Baratkatsu est original. C'est parce qu'il y a une façon inédite de faire entrer la musique dans le théâtre. Et donc, ce qui m'intéresse dans le Baratkatsu, c'est ça. C'est pas voilà, c'est comment la musique et le théâtre sont confrontés, opposés, mélangés. C'est là que l'œuvre est vraiment forte. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas séparer. Je pense qu'il faut, justement vous trouver le bon équilibre. Et alors là, effectivement, j'ai cherché à ce que, pour moi, un des problèmes de l'opéra de Katsu, si on se penche sur les différentes versions qu'on a du texte, c'est que progressivement, Brecht a fait des ajouts. Au fur et à mesure que l'œuvre était jouée et que lui traversait différents moments, voilà, à la fois dans son propre parcours et évidemment les différents moments historiques qui traversent entre 1928 et 1955, puisque c'est à peu près ça le temps des différentes versions du texte. Et donc plus on allait vers la dernière édition qui est 1955 si je me trompe, plus finalement le lien entre le texte et la musique se faisait moins bien, parce que d'une part il y avait plus de texte que de musique, et d'autre part parce que ce travail se faisait sans Weill, puisque en fait au bout d'un moment Brecht a continué à faire évoluer son œuvre sans travailler avec Weill, et là ça devient compliqué. Voilà, donc je me suis dit il vaut mieux essayer de trouver, revenir à l'œuvre, la première version de l'œuvre, où je pense l'équilibre entre la musique et le texte est meilleur.
Et est-ce que en faisant cela, vous pensez pas que vous avez éludé un peu le didactisme que Brecht a voulu peut-être ajouter dans la suite?
Je l'élude, c'est-à-dire que à ce moment-là, 1928, quand la pièce est créée à Berlin, il n'y a pas encore. Voilà. Brecht n'est pas aussi autant marxiste qu'il va le devenir, il n'y a pas une partie des explications. Et je trouve que peut-être que Brecht a un peu trop voulu par la suite expliquer ce qu'il avait voulu écrire. Et je trouve que le côté, le premier jet, dans ce qu'il a de bricolé génialement, me convient mieux. Je trouve qu'il n'y a pas besoin toujours de tout expliquer. Et malheureusement, enfin, Brecht ayant eu beaucoup de succès avec cet opéra de Katsu, parce que l'opéra de Katsu était un grand succès commercial. Il a un peu voulu ensuite dire, oui, bon, j'ai écrit une œuvre qui a marché, mais j'ai bien voulu dire ce que je n'ai pas dit, voilà. Et ça me paraît pas forcément utile. Après, je ne dis pas que les ajouts sont pas intéressants, ils le sont. Et l'évolution que Brecht connaît sur son texte et la manière dont il évolue d'ailleurs sur le matériau Katsu est passionnante. Et là, moi, je trouve qu'il y a une œuvre qu'on connaît trop mal, c'est le roman de Katsu, qui est vraiment très passionnant, justement, pour les développements en fait que Brecht peut imaginer à partir de la pièce. Mais en 1928, il n'en est pas encore question. Il n'est d'ailleurs pas encore question du krach boursier. Enfin, la vision du monde de Brecht n'est pas la même. Voilà. Et ça m'intéresse de voir comment ces jeunes gens écrivent cette pièce, la construisent, et sans me préoccuper de ce qui vient après.
Et justement, je voudrais avoir votre sentiment à propos d'une relation qu'on pourrait établir donc entre l'opéra de Katsu, qui est en quelque sorte une œuvre de jeunesse, et Bâle, qui est aussi une autre œuvre de jeunesse de Brecht, où dans le cas de Bâle, le chant reste la seule possibilité pour le poète lyrique et désespéré d'exprimer ses sentiments, et où on évolue peut-être dans la manière dont Brecht va pratiquer la manière dont il fait entrer la musique dans son théâtre. On évolue, je trouve, dans l'opéra de Katsu, où on a un chant qui est la respiration du texte. Comment est-ce que vous faites la relation entre ces deux
sexes. Et Katsu, je la vois pas aussi directe, parce que je pense que Katsu est quand même une pièce moins expressionniste que Baal. Elle est plus sèche. Baal est quand même beaucoup plus foisonnant. Katsu, c'est assez simple en réalité. Sauf effectivement peut-être dans les chansons, où les paroles des chansons sont parfois plus difficiles à saisir. D'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve que finalement, ce qui est le texte de Brecht dans les paroles est une résonance du texte parlé qui est pas si simple que ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, on n'est pas dans une chose didactique dans les chansons, en fait. Enfin, dans certaines chansons. Donc oui, moi, je vois pas un lien très immédiat. Peut-être que si, parce qu'en fait, peut-être qu'on a une vision en France de Brecht comme un auteur de théâtre, qu'en fait, Brecht était peut-être aussi et avant tout un poète. Et que bon, c'est très clair dans Baal de ce côté-là, puisque c'est une figure de poète, voilà, donc on voit bien. Mais Brecht a écrit énormément de poèmes qui ont été d'ailleurs mis en musique, beaucoup. Et ce qui est peut-être, oui, le lien qu'on pourrait trouver, c'est qu'effectivement, il y a dans les chansons de l'Opéra Katsu des choses qui restent effectivement assez mystérieuses, assez. Qu'on ne peut pas si facilement enfermer dans une traduction, d'ailleurs.
Je voudrais à présent qu'on parle de la musique, des musiciens plus précisément. Vous leur avez donné une place assez singulière, je trouve, dans votre spectacle, assez atypique même. Ils sont presque ouvriers du drame, comme pourrait le dire Novarina. Ils incarnent successivement les ouvriers de l'entreprise Pitchoum, les policiers. Leur rôle, je trouve, quand même, dépasse vraiment... une simple figuration. Comment est-ce que vous avez travaillé ça avec eux? Comment c'est venu?
C'est venu de l'idée que tout le monde allait être sur le plateau, qu'on verrait les musiciens, mais ça c'est une idée qui vient de la première version. En fait, les musiciens n'étaient pas dans la fosse d'orchestre. Il s'agissait de casser les codes de l'opéra, donc on ne mettait pas les instrumentistes dans la fosse d'orchestre. Mais à partir de là, on a eu envie de les mettre au travail, en effet, que tout le monde soit en train de travailler. Voilà. Et autour de cette table qu'on a construite, qu'il y ait des ouvriers qui soient aussi bien des musiciens que des acteurs, et à partir de là, bon, on tire le fil, et puis c'était amusant effectivement de leur demander de faire d'autres choses. Je trouve toujours intéressant de mélanger sur un plateau les présences. Voilà. Bien sûr, les musiciens et les instrumentistes ne sont pas des acteurs, mais ils ont une vraie présence. Et je trouve que ça vaut la peine de brouiller un peu les frontières, voilà, que chacun ne reste pas complètement à sa place, que les acteurs d'un côté jouent, les musiciens font de la musique. Voilà, on peut essayer de mélanger un peu plus les cartes, ce qui est toujours bénéfique aussi, je crois, pour l'énergie du spectacle. Voilà. La manière dont la troupe en fait vit la représentation.
Et donc vous êtes associé avec Jean-Robert Lay, mm-hmm. Parce que j'ai lu dans le programme, mm-hmm. que c'est parce que selon vous la formation qui est la sienne, ou en tout cas qu'il a composée, mm-hmm. Serait proche de celle d'origine.
Alors effectivement, le Louis Band, qui était l'orchestre qui a fait la création de la pièce, était constitué de musiciens, d'ailleurs le plus souvent juifs, qui avaient ce nom américain comme ça pour faire, parce que c'était la mode du jazz, et donc c'était plutôt des instrumentistes qui venaient d'une certaine forme de jazz, qui est cette forme-là, qui est cette forme voilà, de l'époque des années 20, qui n'est pas celui forcément qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'était donc des polyinstrumentistes, tous jouaient plusieurs instruments, puisqu'ils étaient 7, là non, on est 9, donc on n'a pas réussi complètement à retrouver exactement la combinaison qui était jouée, des instruments qui étaient joués, parce qu'ils jouaient 23 instruments à 7. Donc nous on arrive à le faire à 9, donc c'est l'orchestration originale, ça c'est vraiment ce que Weill a écrit, mais ce qui m'intéressait c'était de faire appel à des instrumentistes qui avaient la pratique du jazz, voilà. Parce qu'il y avait ce Louis Band original qui me paraissait une piste intéressante, voilà. Ça veut dire que toute la partition est écrite et on joue exactement ce qui est écrit, hein, on ne joue pas autre chose, il n'y a pas d'improvisation, mais en même temps c'est une attitude, une façon voilà, d'aborder les choses qui est intéressante, voilà, pour cette musique-là, puisque Weill s'inspire beaucoup évidemment, pas tout le temps, mais enfin beaucoup de la de cette musique, cette nouvelle musique qui arrivait en Europe.
Écoutez ça et arrêtez votre passage.
Quelques mots sur les acteurs, si vous voulez bien. Alors, j'ai trouvé assez impressionnant leur capacité à composer avec tous les différents registres qu'implique la pièce de l'opéra de Katsu, et certains que vous rajoutez, comme les marionnettes par exemple. Donc que ce soit le théâtre, l'opérette, le cabaret ou le music hall, je voulais savoir si vous aviez distribué entre guillemets ces cartes en fonction des inclinations des comédiens, ou est-ce que vous aviez ouvert pour eux de nouveaux horizons qu'ils n'auraient pas forcément l'habitude d'explorer.
Alors, quand on fait effectivement une distribution, on choisit un peu ses cartes. Voilà. C'est-à-dire que, une fois qu'on a choisi les acteurs, c'est cette combinaison-là qui va nous permettre de faire le spectacle. Donc, effectivement, je voulais absolument avoir des acteurs qui savent chanter, qui chantent très bien, pas des acteurs qui chantent juste un peu. Des acteurs qui chantent vraiment. Donc c'est plutôt des gens qui viennent du théâtre, mais aussi du théâtre chanté, voilà, c'est pour certains. Après, étant donné qu'il y avait cette question de la marionnette, puisqu'on avait décidé d'utiliser des marionnettes pour jouer les groupes voilà, où il n'y a pas vraiment de personnages, en fait, où c'est juste voilà, des figures qui vont jouer les mendiants, les gangsters, les putains, mais si on regarde le texte, c'est pas des personnages vraiment individualisés. Voilà. Et donc du coup, j'ai fait appel à une marionnettiste pour concevoir ces marionnettes, c'est Émilie Valentin, mais j'ai aussi souhaité que parmi les interprètes, il y ait un vrai marionnettiste, acteur marionnettiste, qui est Jean Sclavis. Donc du coup, on avait quelqu'un qui était vraiment capable de faire ce travail d'animation et qui a aussi appris aux autres, parce que les autres n'avaient pas manipulé une marionnette jusque-là, comment s'y prendre, et ça a été très bénéfique. Je crois, le travail des marionnettes, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ça nous a amené ailleurs que la manière dont on travaille d'habitude, et du coup, ça nous a sorti de ce qu'on peut, quelquefois, des fausses pistes qu'il peut y avoir sur ce type de théâtre, des psychologies, des machins, des trucs, ça n'a aucun intérêt, je pense, sur le père de Katsu. Voilà, donc, après, tout... Chacun des acteurs a sa manière de faire et après voilà, et apporte avec ce qu'il est un arrière-plan différent. Il faudrait parler individuellement de chacun.
Mais justement, pour voir l'usage en général que produisent ces marionnettes sur l'opéra de Katsu, qui a priori dans les lieux qui sont évoqués dans le jet est assez clinquant. Moi, j'ai trouvé que ces marionnettes, elles faisaient un peu figure de désespoir. Est-ce que c'était ce que vous cherchiez, notamment pendant la scène des prostituées, qui là, pour le coup, c'était vraiment le désespoir, la misère humaine incarnée.
Oui, enfin, effectivement, c'est-à-dire que quand on peut avec la marionnette, on peut travailler sur des figures qui sont évidemment pas réalistes, et donc on peut aller vers des esthétiques un peu comme ça, un peu grotesques ou caricaturales. Enfin, on peut s'approcher de ça, et c'est quand même, on a bien ça dans les années 20 à Berlin, avec des peintres comme Otto Dix, des dessinateurs comme Georges Grosse. Enfin, il y a toute cette espèce de... toute cette manière de voir l'humanité de manière extrêmement violente, quand même. Alors, du côté des putains, est-ce qu'elles sont mélancoliques? Oui, mais de toute façon, la scène est très étrange, parce que dans cette scène-là, Brecht dit bien qu'en fait, on n'est pas vraiment dans le bordel. Les putains sont en train de repasser, et elles entretiennent leur linge, et c'est une scène très, très quotidienne dans laquelle Maki arrive et pour raconter son histoire avec Jenny, qui d'ailleurs n'est pas là, enfin elle est là, elle est en train d'aller le vendre aux policiers. Voilà, donc oui, c'est des figures un peu étranges, c'est putain, mais non, je sais pas si j'ai vraiment voulu que ce soit une, peut-être c'est une, non, je suis pas sûr. C'est peut-être ce qui arrive, en tout cas, on ne maîtrise pas tout ce qu'on fait.
Et il y a un élément de détail sur lequel j'aimerais avoir votre sentiment, ça concerne Jenny, justement, le personnage de Jenny. Il me semble que vous avez retiré au personnage, notamment de Maki, toute tension sexuelle qu'on peut sentir, en tout cas que moi, je peux, enfin c'est un langage que moi, que je peux sentir quand je lis le texte. Sexuel, mais pas lubrique, hein, bien sexuel au sens vraiment du désir. Et ce qui m'a le plus frappé pendant la scène entre Maki et Jenny, qui pour moi, dans ma lecture, était vraiment l'opposition parfaite entre Eros et Thanatos, avec la violence sociale en plus qui les opposait tous deux, c'est qu'il m'a semblé qu'il y avait beaucoup de distance entre eux, alors que moi, dans ma compréhension peut-être toute adolescente du texte, je trouvais qu'ils brûlaient peut-être encore d'un amour très ardent l'un pour l'autre. Mais très violent, mais très ardent quand même.
Alors, c'est... Oui, je sais pas. Alors là, bon, après, ce qui est compliqué dans le... Parce que c'est pas un couple... Enfin, c'est un couple où il y a certainement, effectivement, une relation amoureuse, mais elle est quand même très particulière, puisque c'est la relation d'un macro avec sa putain. Donc, il la met au travail, et elle gagne de l'argent pour lui. C'est quand même une manière de faire assez particulière. Alors, là-dedans, comment se passe... la relation sexuelle entre le macro et la putain, c'est pas si simple, hein, faut le savoir d'ailleurs. Enfin, et c'est quand même beaucoup présenté comme une affaire passée dans la pièce. C'était dans ce temps-là, il y a bien longtemps, c'est ça qu'elle chante quand même. Et c'est fini. Alors, il y a peut-être effectivement une résurgence à un moment, puisqu'elle dit qu'il est venu, la voir. Au lieu d'aller se cacher, il va la voir pour. La pardonner, de l'avoir donné à la police. Mais enfin, c'est quand même une relation de dépendance, une relation extrêmement, oui, violente, je crois. Voilà, je sais pas si j'ai voulu les mettre à distance particulièrement. En réalité, elle lui lit les lignes de la main, et puis ensuite elle va le donner à la police, et ensuite ils chantent ensemble, d'ailleurs pas tout à fait ensemble, chacun, ils ont un couplet chacun séparément où ils racontent leur vie passée, leur amour passé, et un couplet où ils chantent ensemble l'histoire de l'avortement.
Oui,
voilà. Où il explique que voilà, elle a avorté. Bon, mais en même temps, bon, voilà, après je pense que c'est quand même dans la chanson et dans le duo, il s'exprime quand même quelque chose d'une relation malgré tout, mais bon, chacun voit ce qu'il...
Oublions maintenant qu'on parle un peu de la mise en scène aussi qui a toutes ses particularités. Et tout d'abord une question, enfin quelque chose d'assez précis dans le spectacle, les panneaux sur lesquels vous faites défiler les titres des différents actes, un peu comme dans la pièce originale, d'ailleurs. Est-ce que c'est pas la chose la plus brechtienne de tout votre travail?
J'essaie de respecter effectivement cette idée de Brecht, donc il fallait projeter les textes. Et je ne fais pas systématiquement, mais presque d'ailleurs. Enfin, voilà. Et moi j'aime bien cette idée qu'il faut dire à l'avance ce qu'on va voir. J'aime bien cette. Parce qu'effectivement, c'est une manière de mettre le spectateur. À sa place de spectateur. Qu'est-ce qu'il y a de brechtien? J'ai essayé de pas trop me poser cette question-là. Je pense que si on aborde l'opéra de Katsu avec l'idée qu'il faut répondre ou trouver une réponse à la théorie que Brecht a pu développer de manière, de toute façon, toujours très contradictoire,
oui,
en disant une chose et l'inverse de cette chose, c'est s'encombrer d'une tradition. C'est compliqué quand on monte le Père de Katsu, on monte le Père de Katsu avec déjà une longue tradition de jeu, d'interprétation, voilà. Et on n'a pas très envie d'avoir ça. Voilà. Après, je pense que la question de la dissociation, de toute façon, elle n'est qu'en gestation dans l'opéra de Katsu. Il n'y a pas encore la théorie. Enfin, je suis pas un spécialiste de Brecht, hein, mais ça vient un peu plus tard, quand même. Voilà. C'est plus, la pièce est plus foutraque que ça. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est le côté un peu désinvolte qu'il y a dans la manière de faire. Je trouve que c'est parce que cette désinvolture, je la trouve assez belle et assez brillante.
Justement, vous parlez de foutraque, et justement, je trouve que votre mise en scène représente une sorte de foutraque, enfin, du moins un chantier. Au départ, on est dans un hangar qui est animé, celui de Pichoum, Il y a des cartons, il y a des échafaudages, et d'une manière quand même assez radicale, je pense, et qui est assez particulière dans votre mise en scène, vous montrez vraiment une entreprise de mendicité. C'est pas simplement dans le discours de Pichoum, il y a vraiment une entreprise, des gens qui font des plans, qui dessinent des prothèses et qui travaillent, et qui après se muent donc en commissariat de police, comme on l'a évoqué avec tous les musiciens, et en quantité d'autres lieux en raison de l'importance du nombre des lieux. Moi, je me demandais vraiment comment est-ce que vous aviez travaillé cette géographie des lieux, qui en elle-même, à chaque lieu, il y a une géographie en même temps des désirs et des penchants de chaque personnage. Et je voulais savoir comment est-ce que vous aviez travaillé ça.
Ben, on est parti de l'idée avec Lisa Navarro, parce que c'est une scénographie que j'ai fait avec elle, et c'est elle qui m'a proposé comme ça certains espaces. On est parti de l'idée qu'effectivement, on est dans le monde du travail. Que tout le monde travaille dans l'opéra de Katsu. Les mendiants travaillent, les putains travaillent, les policiers travaillent et les gangsters travaillent. Donc on a voulu placer ça dans un espace générique de hangar qui pouvait être aussi bien effectivement l'usine ou l'atelier de fabrication de prothèses, le hangar dans lequel les gangsters stockent les marchandises volées, le commissariat, la buanderie des putains. Voilà, on est dans cette configuration-là. Mais ce qu'on voulait faire aussi, c'était que... Et ce qui pourrait correspondre aussi à différents types d'éclairage, parce que la lumière joue beaucoup dans la scénographie. Les lampes elles-mêmes sont un élément de la scénographie, puisque selon les différents espaces, on a différentes lampes qui produisent différentes lumières, mais qui sont plutôt des lumières d'espaces de travail froides, des néons. Et puis, à l'intérieur de ça, on fait arriver d'autres espaces, plus petits souvent, plus resserrés, qui vont être l'espace de la chanson, du cabaret. Et là, on fait intervenir la couleur, on fait intervenir, grosso modo, autant on est dans des choses froides et un peu comme celles qu'on a ici, et autant dans la musique, on va basculer dans des choses plus colorées et plus contrastées. Voilà. Finalement, cet espace, on a essayé de travailler en essayant de le rendre pas toujours identique, même si on est toujours dans le même espace, qui est quand même une espèce de variation, une espèce d'évolution, voilà, des possibilités, voilà. Alors, et puis quand on monte au Père de Katsu, il y a la fameuse question du rideau. Je ne sais pas si vous savez ça, mais en fait, le rideau brechtien, la légende dit que le rideau brechtien a été inventé pour l'opéra de Katsu et que le scénographe Caspar Neher a eu cette idée de rideau le jour de la première et qu'il a mis ce rideau et qu'il a peint sur le rideau Lieder Groschenhofer, et que c'est ça aussi qui a fait l'étonnement des spectateurs. Donc, on a essayé aussi de trouver comment faire ce rideau, puisqu'effectivement, on ne peut pas jouer la pièce sans le rideau. La succession des scènes fonctionne pas mal avec cette idée que, clac, on fait arriver ce rideau, qu'il y a quelque chose devant et qu'on réouvre, il y a autre chose derrière. Et donc, on a travaillé sur cette idée du rideau de carton.
Voilà. Je voudrais maintenant vous poser encore quelques petites questions sur la dramaturgie. Et une question plus précise sur le personnage de Pichoum. Brecht a écrit quelque part que son crime, c'est sa vision du monde. Mm-hmm. Et moi, je me demandais si c'était pour cela précisément que vous nous auriez montré un Pichoum qui serait plus bourgeois que chef dégueu.
Alors, la question de la bourgeoisie, effectivement, elle court d'un groupe à l'autre, puisqu'en fait, Brecht a l'air de dire que, grosso modo, les gangsters sont des bourgeois, ou s'habillent comme des bourgeois, et les bourgeois sont des gangsters. Enfin, il y a une espèce d'idée comme ça que tout le monde aspire à être bourgeois, voilà, avec différents moyens. Pichoum est présenté comme un homme d'affaires. L'homme d'affaires, Jonathan Jeremiah Pichoum. Donc, et il tire, dit-il d'ailleurs plusieurs fois, il insiste beaucoup là-dessus, sur le fait qu'il tire, tire de l'argent de la misère des autres, et qui en fait fortune sur la misère des autres. Alors, est-ce que j'ai voulu le rendre particulièrement bourgeois ? Je pense que le personnage de Pichoum est un personnage angoissé, qui peut-être c'est pas tellement la cupidité ou l'envie de gagner de l'argent qu'une espèce d'angoisse fondamentale que la catastrophe va se produire et qu'on n'aura jamais amassé assez de réserves pour y faire face. Donc j'avais plutôt envie de chercher quelqu'un, une espèce de personnage engoncé, enfermé, corseté. C'est plus chercher plutôt une sensation physique finalement sur ce personnage et sur la famille d'ailleurs Pichoum qui et alors il y a cette chanson Polly, donc la fille parle du col, elle parle une chanson, elle parle beaucoup du fait que être bien dans la vie, c'est d'avoir un col propre, c'est les cols de l'époque, les cols en cellulose. Donc pour moi c'est ça, la famille Pichoum, c'est des gens qui ont des cols, qui sont enfermés dans leur col, engoncés dans leur col.
Alors, plus fortement, est-ce que le contexte historique dans lequel cette pièce a été écrite, même si Brecht en avait seulement les prémices, n'en avait pas la totale conscience, la montée du nazisme...
C'est un peu tôt en 28, la montée du nazisme.
Oui, enfin, disons que... Enfin, disons la manière dont le monde est en train de changer, un peu ce qui se passe avec Trump là peut-être, ce matin. Enfin, on a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que cela, ça vous paraît juste anecdotique, ou est-ce que ça a été vraiment important dans la manière dont vous avez appréhendé l'opéra de Katsu au-delà des aspects qu'on a déjà évoqués?
Alors, je vais vous répondre par un texte d'Elias Canetti, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui a écrit des choses merveilleuses, et il a écrit aussi des mémoires, plusieurs volumes de mémoires, et il raconte, il parle beaucoup de l'opéra de Katsu, enfin, qu'il est allé voir, et de sa rencontre avec Brecht, qui ne s'est pas très bien passé d'ailleurs, et il dit finalement... L'opéra de Katsu, il est très critique à l'égard de l'opéra de Katsu. Il trouve que finalement c'est un succès commercial, que c'est finalement les bourgeois allaient voir ça avec le sentiment de s'encanailler, que finalement ils n'étaient pas vraiment mis en cause. Et puis il dit finalement, au final du premier acte, on chante. Du deuxième acte. Donnez-nous d'abord à manger, ensuite on pourra parler de morale. Il dit, finalement, les nazis pourraient dire ça aussi. Je trouve très 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 provocateur. Je suis pas du tout d'accord avec Canetti, mais ça dit que finalement, je sais pas si. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je sais pas si l'opéra de Katsu est un moyen. Une dénonciation, je crois que c'est plus, je dirais plutôt, c'est une manière de libérer l'énergie de la survie. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un point de vue critique sur le monde capitaliste qui produirait le fascisme. Je ne suis pas sûr.
Et donc, j'aimerais vous poser une dernière question, cette fois-ci. Une question que Brecht posait d'ailleurs en son temps. Et qui n'a peut-être pas de réponse, ou dont la réponse est visible aujourd'hui puisque le théâtre existe encore. Est-ce que le monde d'aujourd'hui peut être restitué par le théâtre ?
Ah bon, j'espère bien que oui. Oui. Oui, je peux. Enfin, si on ne ferait pas de théâtre. Hein. Après, est-ce qu'on le fait bien ? Je ne sais pas. Oui, je pense que le théâtre reflète le monde. Oui. Pas toujours en bien, d'ailleurs.
Et pour terminer, j'aimerais vraiment pouvoir établir ici un parallèle entre Mackie et peut-être Trump, dans l'idée que l'escroc, le, enfin voilà, on va pas porter de jugement de valeur sur le nouveau président des États-Unis, mais disons celui qui n'est pas arrivé à une certaine fortune de manière très honnête. Est-ce qu'on a la même dimension dans l'opéra de Katsu que dans l'élection de Trump, peut-être?
Ah,
la même chose peut-être.
Ah, c'est une colle. C'est compliqué de répondre à cette question parce que en fait, dans le Parakatsu, quand même, Maki ne gagne pas.
Oui, mais à la fin, il est quand même nobilisé.
Oui, mais par une espèce de tour de passe-passe auquel personne ne croit. Parce que, après, je dis bien, vous savez, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Donc, voilà. Et d'ailleurs, le final de Parakatsu est très mystérieux. Il dit, ne poursuivez pas trop le crime parce qu'il gèlera de lui-même. À voir. Enfin, à voir, oui, peut-être. Enfin, c'est une manière un peu poétique de terminer la pièce, voilà. Il prend pas autant parti que ça. Est-ce que Maki pourrait être une figure de Trump? Peut-être. Dans le roman de Katsu, Maki n'a de cesse que d'effacer son origine, l'origine de sa fortune pour présentable et il prend le contrôle des banques. Enfin, Maki devient un homme d'affaires tout à fait présentable dans la city, et on pourrait tout à fait imaginer qu'il prenne des responsabilités politiques, mais c'est un développement de l'opéra de Katsu, c'est pas forcément ce qu'il y a dans l'opéra de Katsu.
Merci Jean Lacornerie d'avoir répondu à nos questions. Donc l'opéra de Katsu se joue jusqu'au 12 novembre au théâtre de la Croix-Rousse, et donc il a déjà tourné, et il va tourner dans la région Rhône-Alpes.
Les dates les plus près d'ici, c'est Villefontaine à la fin du mois de novembre, et puis on va jouer à Privas, c'est encore plus loin, mais on joue dans beaucoup d'autres endroits, puisqu'en fait on part à partir de la semaine prochaine en tournée jusqu'à la fin du mois de janvier.
Et les auditeurs peuvent trouver cette information sur le site internet de la Croix-Rousse, je suppose.
Oui, qui est très bien fait, comme vous le savez.
Merci beaucoup, Jean Lacornerie.
Merci à vous.
Teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Das ist des Menschen nahtes Recht auf Erden. Doch leider hat man mich nicht genommen, dass etwas nicht war und dann war es auch so. Wer hätte hier einmal Recht bekommen? Und die Verhältnisse, die sind nicht so. Wenn
dir sein Herz und ich lange es dir mehr ins Gesicht undankbar sein. Der Wort ist nicht
ja, das ist der Bestrafe, das ist das Bild der Freude. Die welche Frau will ich nicht mehr, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr.
Natürlich hab ich leider recht, das ist auch nicht.
C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
On tente de se maintenir en vie. Là. C'est juste l'entre-deux. La trace.
Regard intime.